You have to believe in your own way.
Radio G 101.5 FM.
Il est 19h, bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant, l'émission proposée et préparée par les groupes Angevins d'Amnesty International sur Radio G 101.5 FM, un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour cette demi-heure consacrée aux droits humains. Et pour animer cette émission, Philippe et Sophie, bonsoir à vous deux.
Ravi de vous retrouver.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir Sophie, c'est ta grande rentrée à toi.
Oui, et tout oui. À fait.
Alors dans cette émission, nous allons recevoir Françoise et Patrick de l'association Angevine Place au Vélo. Ensuite, nous passerons en revue l'actualité et dans la rubrique biographie, vous sera proposé un nouveau portrait d'un défenseur des droits humains. Mais tout d'abord, Philippe, dans ton éditorial, tu voulais nous parler de la situation des peuples d'Amazonie.
Le président Bolsonaro a placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et non plus de la Fondation nationale de l'Indien, la FUNAI, chapeautée auparavant par le ministère de la Justice, la démarcation des terres attribuées au peuple autochtone. Un ministère confié au leader du groupe parlementaire qui défend les intérêts de l'agrobusiness. Le gouvernement prend pour cible le fonds Amazonie, principal financier depuis 2008 des projets de préservation des écosystèmes et de lutte contre la déforestation. Il paralyse son action, accusant même sans preuve certains acteurs de la société civile d'irrégularité dans la gestion de l'institution.
Et depuis la mi-août environ, quotidiennement, les feux de forêt ont fait la une des journaux.
Et oui, la multiplication des feux amazoniens, en fait, est la face visible de la politique de Bolsonaro. Car avant d'être le poumon de la planète, c'est d'abord le milieu de vie des Indiens qui est détruit par les incendies, le lieu où ils sont nés, où ils chassent, où ils interagissent avec les esprits. Le taux de déforestation au Brésil a augmenté en août de 222% par rapport à la même période de 2018, soit un stade de football rasé par minute, près de 400 000 arbres par jour. Malgré tous les avertissements, beaucoup voient encore la forêt comme une ressource inépuisable, facilement reconstituée, une sorte de jardin d'Éden où tout pousse facilement.
Et on assiste aussi à une répression sans précédent.
Intimidation, menaces, assassinats de chefs et de défenseurs de l'environnement, incursions dans les terres indiennes, voilà le quotidien. Bûcherons et fermiers, orpailleurs et hommes de main se sentent comme libérés par la parole présidentielle. Bolsonaro a affirmé que les leaders des peuples autochtones, comme le chef Raoni, sont manipulés par l'étranger. De plus, ce gouvernement veut empêcher la société de réfléchir à ce qui se passe. Ainsi, sous couvert de vouloir favoriser les filières plus technique pourvoyeuse d'emploi, il supprime les bourses et budgets de fonctionnement de plusieurs facultés enseignant la philosophie ou la sociologie.
Bah voyons. Et quelles sont les populations les plus touchées par la déforestation et les incendies et la politique expansionniste des lobbies de l'agrobusiness?
Il y a encore à peu près 600 ethnies parlant des langues différentes en Amazonie au sens large et la plupart d'entre elles se sont trouvées confrontées à ces agressions. Même les populations autochtones qui jouissent de territoires réservés se voient de fait envahies parce qu'il existe rarement des mécanismes permettant une protection effective. Une population de quelques centaines d'individus, le cas le plus courant, en Amazonie, se trouve forcément bien démunie contre des envahisseurs surarmés. Il faut savoir aussi que le taux de suicide des jeunes indiens est 16 fois supérieur à celui des non-indiens.
Alors comment faire pour protéger ces peuples autochtones?
Joenia Batista de Carvalho, première femme autochtone diplômée en droit et première députée fédérale indigène, a lancé le Front parlementaire mixte, qui compte aujourd'hui 220 députés fédéraux et 27 sénateurs. L'objectif de ce front est défendre les droits des peuples indigènes, contrer les propositions qui tentent de faire régresser leurs droits et trouver les solutions pour faire des propositions alternatives.
Eh oui, mais peut-on intervenir pour sauver une forêt ou une région entière menacée de destruction quand le gouvernement du pays n'est pas d'accord?
C'est en effet un problème fondamental. Des initiatives récentes de donner une personnalité juridique à des milieux de vie, comme la rivière Whanganui en Nouvelle-Zélande, ont ceci d'intéressant qu'elles renversent le sens de l'appropriation et étendent la responsabilité aux non-humains. Cela transforme la notion de bien commun, puisque ce n'est plus un collectif qui décide de la nature de ce qui sera approprié, mais un ensemble d'humains et de non-humains qui devient garant de la perpétuation d'un milieu de vie. Pour des motifs de souveraineté nationale, la plupart des Brésiliens sont depuis longtemps opposés à une internationalisation de l'Amazonie. C'est bien compréhensible. Mais si la personnalité juridique d'un milieu de vie était étendue partout, alors la question se poserait de façon tout à fait différente.
Merci Philippe. Vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G101.5 FM et nous avons aujourd'hui le grand plaisir de recevoir Françoise et Patrick. Bonjour à vous deux et merci beaucoup d'être là avec nous ce soir.
Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, est-ce que vous pouvez présenter votre association ?
Ben, on va essayer de le faire le plus rapidement possible. Donc, Place au Vélo est une association qui essaye de faire la promotion de l'usage du vélo, mais aussi de la marche à pied, donc de ce qu'on appelle les modes actifs, comme des moyens de déplacement en milieu, principalement en milieu urbain, hein, comme étant une alternative à l'automobile. Donc faire la promotion de ces modes de déplacement, c'est essayer de participer à la lutte contre le changement climatique, à la lutte contre les pollutions atmosphériques liées aux émissions de particules fines par les moteurs de nos chers véhicules, qui sont quand même bien utiles de temps en temps. C'est aussi faire la promotion de moyens de déplacement qui renforcent la santé. Hein, toutes les études convergent en disant qu'une demi-heure de vélo par jour, ça remplace largement toutes les salles de gym que vous pouvez faire et tous les abonnements que vous payez très cher. Et le mal de dos que vous avez aussi en restant assis de votre ordinateur tous les jours. Donc essayez, et on le voit, hein, c'est pas la peine d'être un grand clerc, pas besoin de faire des grandes mesures, hein, on voit bien que le vélo est en train de se développer dans toutes les agglomérations françaises, bien loin cependant de ce que font les Danois, hein, puisque à Copenhague aujourd'hui c'est 50% de part modale des déplacements qui se fait en vélo.
Ah oui.
Hein, donc
on va y arriver, on va y arriver.
Oui. On va y arriver, mais c'est un vrai choix. Hein. Donc, une des actions de l'association, c'est d'essayer de faire du lobbying ou de faire une action auprès des politiques pour faire bouger la vision des choses.
Mm-hmm. Alors, moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a beaucoup de pratiquants, de cyclistes, donc, sur Angers et son agglomération ?
Est-ce que vous... Alors, on n'a pas de comptage. C'est très étonnant. Vous avez des relevés de comptage d'automobiles. Alors là, je vous promets qu'Angers est quadrillé, vraiment quadrillé. Compter des vélos, pour l'instant, c'est pas encore. C'est beaucoup plus ponctuel et donc on n'a pas de chiffres qui permettent de vraiment quantifier cette augmentation.
D'accord.
Enfin bon, il suffit de se déplacer dans Angers pour voir.
Oui, on voit que ça progresse.
Depuis septembre. Ouais. Depuis septembre, on voit qu'avec le Redoux, il y a beaucoup de plus en plus de cyclistes et notamment des utilisateurs de vélos électriques, puisque la prime de 200 euros a généré 150 dossiers, donc sur un budget de 30 000 euros. Donc ça fait des voitures en moins et beaucoup plus de cyclistes.
Ah bah, bien sûr.
Est-ce que vous abordez aussi les trottinettes dans votre association ? Est-ce que c'est un mode...
Alors, c'est la question des trottinettes, c'est une question, c'est toujours le problème de la cohabitation des différents modes de déplacement. Hein, donc la question des trottinettes, elle est d'abord réglée au niveau national par la loi. Donc il y a actuellement la législation, c'est les trottinettes qui ne doivent pas dépasser la vitesse des vélos à assistance électrique, soit 25 km/h, et l'obligation de rouler aux mêmes endroits que les vélos, c'est-à-dire absolument pas sur les trottoirs.
D'accord.
Et quand on roule dans une aire piétonne, qu'on soit en vélo ou en trottinette, on roule à la vitesse du piéton, c'est-à-dire entre 4 et 5 km/h, et quand il y a vraiment la foule, on descend de son vélo.
Nous avons vu arriver à une réunion d'adhérents et de sympathisants des jeunes, donc des amateurs de hoverboard, et qui souhaitaient partager les pistes cyclables avec nous, qui voulaient ne plus aller sur les trottoirs parce qu'ils ont bien conscience qu'ils mettent en danger les piétons. Et on a pu faire des vélérussions avec eux, et c'est vrai qu'ils sont très utiles, hein, parce qu'en fait ils se mettent au carrefour, ils bloquent les voitures. D'accord. Le temps que le cortège de cyclistes passe, et après très vite ils rejoignent un autre croisement.
Tu as dit quoi comme mot, overboard?
Des overboard, des monoroues électriques.
D'accord, je vois ce que c'est. D'accord. Merci pour la traduction.
Et est-ce que vous avez, par exemple, des ateliers qui apprennent à réparer son vélo? Est-ce qu'il y a un aspect technique également?
Tout à fait. Alors, dans la présentation, Place au vélo fait partie de la Fédération des usagers de la bicyclette, qui est une fédération nationale et qui regroupe plus de 300 associations. Et donc, nous avons un local depuis 2015, 6 boulevard Olivier Couffon, à la Baumette, à Angers. Et c'est un local partagé avec la prévention routière.
D'accord.
Donc là, nous avons plusieurs activités. Donc, des ateliers gravage Bicycode. Donc, c'est une marque déposée par la fédération. C'est un numéro à 12 chiffres qui permet de retrouver, tout à fait.
D'accord.
Donc c'est un numéro identifiant gravé sur le côté du cadre qui permet, quand le vélo est retrouvé par les forces de l'ordre, de rentrer le numéro dans un fichier et de retrouver les coordonnées du propriétaire.
D'accord.
Et donc dans le même temps, nous initions aussi des personnes à l'entretien, hein, donc des choses basiques comme bien gonfler les pneus, réparer une chambre à air, régler un câble de frein, changer des patins. Voilà, mais nous sommes vraiment sur l'échange de savoir. Nous ne faisons pas à la place des personnes, mais nous faisons avec. Nous, au mieux, nous montrons une première fois, mais c'est que, enfin, l'objectif est que les personnes deviennent autonomes dans l'entretien et la réparation de leur vélo. Et quand le vélo est vraiment trop abîmé, on les dirige vers des marchands de bicyclettes.
D'accord.
Et nous avons aussi la piste de la prévention routière qui est accessible. Et une fois par mois, on l'ouvre aux personnes qui le souhaitent. Donc en général, ce sont des enfants qui peuvent circuler, donc s'initier déjà à la priorité à droite, à des choses basiques, de telle manière à être plus sûr après dans le trafic routier.
Oui, d'accord.
Et vous faites quelque chose aussi via les adultes?
Alors, donc, en direction des adultes, on fait donc tous ces ateliers une fois par mois à notre local. On en fait aussi avec des repair cafés dans les maisons de quartier. Et on développe, et pas seulement nous, hein, mais d'autres associations le font aussi, ce qu'on appelle des vélos-écoles. Hein, donc, les vélos-écoles, ça consiste à apprendre à faire du vélo soit à des gens qui n'en ont jamais fait, soit à des gens qui veulent se remettre en selle parce qu'ils en ont fait quand ils étaient petits, ou bien ils ont eu un accident et ils se sentent plus sûrs d'eux-mêmes, ou bien ils savent faire du vélo mais pas en ville. Or, il y a les habiletés à vélo, hein, tout ce qu'on sait faire pour tourner, pivoter, tendre son bras, mais il y a après être capable de circuler en ville au milieu de la circulation motorisée et d'acquérir toutes les compétences d'attention, de repérage dans l'espace. Et donc ces acquisitions sont très très importantes, y compris pour aller passer le permis de conduire. Vous n'y penseriez pas, hein, mais c'est très important de pouvoir acquérir ces habiletés en préalable à l'acquisition de permis de conduire, parce que ça vous permet de vraiment vous repérer dans l'espace.
Oui, et la pratique du vélo, je crois aussi, favorise l'insertion.
Tout à fait, l'insertion professionnelle. Donc moi-même, je travaille dans l'insertion professionnelle et je peux constater que beaucoup de personnes n'accèdent pas à l'emploi faute de mobilité.
D'accord.
Et beaucoup de personnes cherchent un premier emploi, donc quelques heures dans la journée, et les transports en commun ne démarrent pas assez tôt. Et le vélo est un bon moyen de commencer un travail de commencer très tôt le matin.
D'accord, merci.
Donc où est-ce qu'on peut vous contacter pour
Tout simplement en allant sur notre site internet, Place au vélo Angers. Vous tapez ça dans votre moteur de recherche et vous nous retrouverez. Le site internet est à jour et vous permet de retrouver toutes nos activités, nos coordonnées et tout ce dont vous avez besoin.
D'accord.
Merci d'avoir accepté de participer à notre émission.
Merci beaucoup.
Merci. Merci. On se retrouve après une pause musicale.
De bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.
Bah évidemment, vous avez bien reconnu notre petit clin d'œil. C'était Yves Montand qui chantait « À bicyclette, j'y arrive moins bien ». Voilà, et puis maintenant, c'est l'heure d'écouter notre fameuse chronique. Elle était avec nous le mois dernier. C'est Céline, notre veilleuse de la halte, d'urgence d'Angers, située au chemin de traverse. On va l'écouter tout de suite.
Bonsoir Valérie. Et oui, il est temps de reprendre la chronique de la vie quotidienne du chemin de traverse. Le temps est sec, le site se transforme peu à peu en camp permanent. Le préau a été couvert des deux tiers par des couvertures qui font office de rideaux. 6 ou 7 personnes sont installées à table ou sur des banquettes improvisées. Nous nous demandons ce que cela peut donner lorsque la pluie oblige les 70 ou 80 personnes à se mettre à l'abri. La soirée est calme, mais beaucoup d'animation. Plusieurs familles sont là avec de nombreux enfants. Les garçons jouent au foot. De jeunes adultes font du vélo. Beaucoup d'échanges entre les gens. Une petite ville dans la ville. Nous sortons quelques vêtements chauds pour les hommes de grande taille. L'occasion est rare, ça tombe à pic, car nous pouvons faire 5 ou 6 heureux. La famille Mohamed a rendez-vous à l'hôpital pour le bras de leur petite fille le lendemain. Le jeune couple georgien n'a rien demandé mais aurait besoin d'une poussette. Ils ont toujours dans les bras leur fille de 13 mois. La maman enceinte a rendez-vous le lendemain à la maternité. Le bébé va bien, mais serait petit. Un couple voisin du site passe en voiture. Il voudrait aider en amenant de la nourriture. Demande ce qu'ils peuvent faire. Je leur indique que chacun fait ce qu'il peut, qu'ils peuvent passer quand ils le souhaitent. Ils amèneraient de temps en temps un plat de pâtes ou des gâteaux. Le site ouvre à l'heure. Il reste encore beaucoup de monde dehors. Nous décidons de faire partir rapidement le couple Bamba et leur petite fille de 2 mois. Entre-temps, Marie-Odile est arrivée avec une personne qui fera partie désormais de leur groupe de jokers. Ils souhaitent voir comment se passe une veille. Au vu du nombre, Marie-Odile propose d'héberger une famille. Sarah et Adonai, Samba et les 2 garçons iront chez elle. La famille Mohamed sera logée à la paroisse. 3 membres de la famille georgienne chez les David, 2 autres membres et Djebana, une nouvelle femme chez Véronique. Le couple georgien chez Luzim. Nous avons laissé 2 couples dehors et un homme qui avait une place mais qui n'est pas rentré. Au total, cela fait 3 femmes et 6 hommes dehors. Le reste de pain déposé par Christine au camp des Roms qui s'est installé près de l'ancienne usine Bulle. Fin de la veille, 21h45.
Et c'est le moment des actualités. Allez Sophie, tu nous parles de Toulouse où des observateurs de la Ligue des droits de l'homme ont été pris à partie par des policiers lors de l'acte 46 des Gilets jaunes.
En effet, les observateurs ont été insultés, menacés, gazés, frappés et matraqués alors qu'ils ne faisaient que remplir leur mission. L'Observatoire des pratiques policières a vu le jour à Toulouse en mars 2017 après